Voilà. Aurélien Bélanger, votre conclusion sur les carnets de la drôle de guerre.
Dans les carnets de la drôle de guerre, Sartre raconte les étonnantes conclusions des dérives géographiques qui l'ont conduit avant la guerre avec Beauvoir et Nizan à postuler que Paris, peut-être, n'existait pas. On connaît de Sartre cet autre paradoxe qu'on n'aurait jamais été aussi libre à Paris que sous l'occupation allemande, mais je trouve celui-ci encore plus difficile à soutenir, même si je vois l'idée. La ville comme fonction dérivée de nos désirs, comme superstructure plus faible que les idéologies qui la sous-tendent, comme carte à trous de la mémoire, la ville comme idéalité réservée à Proust, ce rentier de l'imaginaire, ce capitaliste de la mémoire. Paris était en somme bien trop bourgeois et trop idéaliste pour de jeunes existentialistes. Ils finiront d'ailleurs, faute de l'avoir vu bombarder dans une apogée surréaliste, mais Breton avait fui à New York, par le reconstruire méthodiquement en commençant par les caves de Saint-Germain-des-Prés. Douter de l'existence de Paris, la chose m'a toujours agacé. Elle agaçait aussi Sartre d'ailleurs, qui montre peu de complaisance après-guerre pour le dandy phénoménologue qu'il était autrefois. Douter de l'existence de Paris, sans doute fallait-il cette mauvaise foi pour survivre quand on était comme Sartre, son prisonnier depuis toujours, entre une enfance rue Le Goff au pied du Panthéon et des années de formation placée à tourner péniblement autour de lui, de Louis le Grand à Henri IV, d'Henri IV à Normal Sup, le plus noble, le plus grinçant et le plus caricatural des carousels parisiens. D'ailleurs, c'est en tant que provincial, sans doute, que son complice Nizan s'en est mieux départi. Lui parvint à croire le premier que Paris existait, même s'il dut pour cela recourir à cette figure de style vieille comme Montesquieu, l'exotisme, et utiliser Adène afin d'apercevoir Paris. Il saura dès lors représenter les villes, des errances alcoolisées du jeune Antoine Bloyer à travers le Paris des années 1900, à l'ambiance pré-révolutionnaire de la ville ouvrière de Villefranche, vue de loin, un dimanche, par des prolétaires qui regardent ce monde qu'ils ont contribué à créer et qu'ils ne trouvent pas bon. Le modèle littéraire, sans doute, de ces grands paysages de ville, on le trouve dans l'ouverture du Rouge et le Noir, une ville entière, rêve et ridicule compris, ramassée en une dizaine de pages. Paris était-il trop peu provincial pour se laisser raconter ainsi? Quelle sorte d'infini a décelé Sartre pour douter de son existence, non pas de celle de ses rues et de ses habitants, mais de celle d'un objet unique qui porterait ce nom? La chose est d'autant plus singulière qu'au moment où il se souvient de cela, et le jeune Sartre était affecté au service météorologique de l'armée et passait ses journées à envoyer des ballons sondes dans la haute atmosphère. Que l'aspect scientifique de cette activité ne l'intéresse pas, cela me surprend, mais je peux à la limite le comprendre. Qu'il continue de rêvasser à l'existence des villes, alors que les techniques qu'il manipule sont précisément les mêmes que celles de la photographie aérienne, cela est franchement bizarre. D'autant qu'il cite dans ses carnets de la drôle de guerre, à plusieurs reprises, Saint-Exupéry, dont les exploits aériens ont fait émerger de nouvelles propriétés à la Terre. Le phénoménologue a été particulièrement intéressé par ce passage où l'aviateur se demande si la glace qu'il aperçoit supportera le poids de son avion. Cela, insiste Sartre, n'a été jusque-là le souci d'aucun homme. Cela est, pour la conscience, une innovation radicale. Et de fait, à moins comme Jules Védrine de se poser sur le toit des Galeries Lafayette, Paris intéresse moins les aviateurs en détresse que le plateau de Vélizy. Ou bien, et c'est toute l'ironie de la situation, dont Sartre ne dit rien mais à laquelle il participe, en lâchant ces sondes qui infusent leurs lourdes menaces dans l'atmosphère, les villes, pour la première fois visibles du ciel, sont promises par là même à des destructions inédites. L'exode est ainsi devenu la nouvelle figure du siège quand Paris, à l'instant des premières menaces, au lieu de se refermer sur lui-même, s'est dissous dans les files de voitures emportées vers la Loire, des appartements entiers renversés sur leurs toits. Alors peut-être, dans ce nomadisme absolument inattendu, à la guerre précédente, on s'était encore serré, comme le raconte Proust dans les station de métro, Sartre a vu passer une confirmation de ses intuitions de jeunesse sur l'absolue contingence des villes, une preuve, oui, de leur inexistence.